Il est midi 32, merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha, la radio lusophone en France. Je suis maintenant en compagnie de Victor Pereira. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut d'Histoire Contemporaine de Lisbonne et maître de conférences à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Vous êtes titulaire depuis 2007 d'un doctorat en histoire à Sciences Po Paris. Et vous venez aujourd'hui nous présenter votre dernier ouvrage. Il s'appelle « C'est le peuple qui commande, la révolution des œillets de 1974 à 1976 ». C'est aux éditions du Détour. Un livre d'histoire qui nous raconte une période assez proche de nous, aussi bien historiquement que géographiquement, mais qui est assez peu étudiée et abordée. L'originalité de ce livre, par rapport aux rares autres en langue française qui traitent de cette période historique pourtant si déterminante en Europe, est qu'il aborde le point de vue des élites politiques, de l'institution militaire, qu'il prend en compte les différents mouvements sociaux nationaux, ainsi que les enjeux internationaux. C'est un ouvrage qui, s'appuyant sur des archives peu traitées, renouvelle complètement l'aspect narratif de la Révolution d'avril. Commençons notre entretien, si vous le voulez bien, par aborder ce qui ouvre votre livre, c'est-à-dire la question des traces. Nous fêtons cette année les 50 ans de la Révolution des œillets, pourtant les traces qu'elle a laissées ont été effacées, notamment les traces de balles. Je vous cite, « Le 25 avril 1974, pendant 2 minutes et 15 secondes, la façade du couvent des Carmes à Lisbonne est criblée de balles. Pourtant, tous les impacts de balles ont été effacés. La façade est aujourd'hui immaculée. » Et repeinte. Fin de citation. C'est le point de départ de votre livre. La mémoire n'est plus inscrite dans la pierre.
Tout à fait. Et surtout sur cette place que peut-être les auditeurs connaissent. Il y a juste à côté une église qui a été détruite pendant le tremblement de terre de 1755. Et ce qui est étonnant, c'est que d'un côté, on n'a jamais reconstruit cette église et qui est une des églises assez intéressantes à visiter à Lisbonne. Et juste à côté, donc, il y a ce couvent qui est le siège de la gendarmerie nationale. Et on sait que les militaires du 25 avril ont tiré dessus. Et à un moment donné, j'imagine, le chef de la gendarmerie, quelqu'un, a décidé de rendre à la façade sa pureté, si ce n'est originelle, du moins ancienne. Et on a retiré les traces de ces balles. Et moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est non seulement qu'on le fasse, mais que ça ne crée pas de polémique. Alors que souvent, il y a des polémiques autour des espaces publics. Il y a eu une polémique il y a quelques années au Portugal sur une statue du Pas de Vielle à Lisbonne, etc. Là, j'ai recherché dans la presse, alors peut-être que j'ai mal cherché, mais j'ai trouvé aucune trace de cette polémique. Et c'est d'autant plus intéressant pour quand on est à Paris, quand on fait le tour de la capitale, on voit souvent des traces de la Seconde Guerre mondiale ici, résistant du FTP ou FFI a été tué par les nazis, etc. Il y a, si vous regardez bien à Paris, il y a beaucoup de traces de la Première et surtout de la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Et là, ça a été effacé. Donc ça, ce qui m'a intéressé, c'est l'effacement. Alors après, c'est pas tant l'effacement du 25 avril, mais c'est surtout cette idée que de la violence qui a été utilisée et qui aurait pu être utilisée le 25 avril. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est cette idée qui est très commune en France, au Portugal et à l'étranger, que le Portugal, que la révolution des œillets est une révolution pacifique. Or, quand les militaires sortent de leur caserne dans la nuit du 24 au 25 avril, ils pensent qu'ils vont devoir utiliser la force.
Il y a eu, selon vous, une minimisation de la dynamique révolutionnaire violente ou alors une romantisation excessive de la révolution d'avril?
Je crois qu'il y a eu une certaine romantisation et c'est, au début, vous avez dit que la révolution est peu connue, certes, mais quand on connaît la révolution des œillets, souvent, c'est cet aspect de la révolution en paix, sans aucun mort. Mm-hmm. Et ce qui est vrai, c'est que par rapport à d'autres révolutions, c'est une révolution qui a causé moins de morts. Il y a eu 5 morts le 25 avril. Après, il y a eu quelques morts au moment des troubles qui ont, des mouvements sociaux qui ont suivi, etc. Mais après, faut pas retourner complètement les choses, mais c'est une révolution relativement pacifique, mais où il y a eu des morts, où il y a eu de la violence, et surtout ce qui est intéressant, c'est que pendant quasiment un an et demi, ça a été une révolution sociale. Une révolution politique, sociale, culturelle, et souvent, on parle que du 25 avril, on a l'impression qu'en une journée, la dictature est tombée et une démocratie libérale s'est tout de suite installée. Or non, certes, la dictature est tombée en quelques heures, mais pendant un peu plus d'un an et demi, le Portugal a vécu un enthousiasme des grèves, des occupations de terres, et des hommes politiques, des militants politiques, des militaires ont essayé de penser à un autre Portugal, et un Portugal qui serait différent de ce qu'il était auparavant, mais des autres régimes qui existaient en Europe à l'époque.
Victor Pereira, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, pouvez-vous contextualiser et nous expliquer ce qu'était le Estado Novo et qui était Salazar?
Donc l'Estado Novo, c'est la dictature au Portugal qui commence en 1933 et qui dure jusque donc le 25 avril 1974. Et l'Estado Novo est fortement lié à une figure, Antonio de Oliveira Salazar. Antonio de Oliveira Salazar qui est à l'origine un professeur d'université, à l'université de Coimbra, qui est appelé par les militaires qui ont fait un coup d'État le 28 mai 1926, qui prennent le pouvoir. Et ces militaires sont confrontés notamment à une situation économique et financière difficile. Ils font appel à Salazar, qui apparaît comme un expert des finances publiques, qui est d'abord nommé quelques jours ministre des Finances en 1926, puis qui est rappelé en 1928, et qui, à partir de là, va plus quitter le pouvoir pendant 40 ans, devient Premier ministre en 1932, et reste à la tête du gouvernement jusqu'en 1968, et à la tête du pays. Et Salazar va instaurer une dictature de droite, nationaliste, impérialiste, corporatiste, où les syndicats libres n'existent plus, où la police politique surveille la population, traque l'opposition, et ça va être une dictature qui va durer pendant donc 40 ans. Salazar a des problèmes de santé en septembre 68, il est remplacé par Marcel Caetano, qui va le remplacer et qui va maintenir, avec quelques changements de façade surtout, la dictature jusqu'au 25 avril 74.
Et s'ouvre souvent un débat, s'ouvre une réflexion qui demande s'il y a eu, oui ou non, un fascisme portugais, si le salazarisme est un fascisme. Je sais que ce n'est qu'ici une question d'étiquette, c'est peut-être une question vaine, mais enfin il nous faut la poser.
C'est pas une question vaine, parce que c'est une question qui a beaucoup marqué l'historiographie portugaise ces dernières années, avec des personnes, des historiens, qui défendent que le salazarisme est un fascisme. D'autres qui disent que c'est un régime autoritaire. Ça peut paraître une discussion byzantine, mais ça n'est pas tant que ça, parce que d'une part, c'est une implication. Pour certains, dire que ce n'est pas un régime fasciste, ça serait le banaliser, réduire la répression qui a été menée. La grande question du fascisme-non-fascisme, c'est notamment que, qu'est-ce que ça veut dire que le fascisme ? Et est-ce que le fascisme, ce n'est que le fascisme italien ? Originellement, le fascisme, c'est l'Italie. Et notamment, ceux qui défendent que c'est plutôt un régime autoritaire, disent notamment les régimes fascistes, comme l'Italie de Mussolini ou comme l'Allemagne d'Hitler, ce sont des régimes qui veulent changer complètement la société, qui veulent créer un homme nouveau. Or, au Portugal, Salazar, il n'a pas voulu changer complètement la société. En contraire, il a voulu préserver la société de la modernité. Et un de ses slogans, c'était qu'il voulait que les Portugais vivent habituellement. Il ne veut pas changer les hommes, il ne veut pas changer les femmes. Il veut maintenir un régime, une société rurale, avec le curé, l'institutrice, etc. Un autre élément aussi important dans les distinctions fascisme et non-fascisme, c'est que les régimes fascistes, c'est des régimes qui veulent la guerre, qui veulent transformer la société par la guerre. Salazar n'a pas du tout voulu rentrer dans la Seconde Guerre mondiale. Il a fait son possible pour que le Portugal ne rentre pas dans la Seconde Guerre mondiale, pensant que ça serait une catastrophe pour son régime et pour le pays. Et donc, c'est pas du tout un régime annexionniste. Néanmoins, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, un régime impérialiste. Et le Portugal a mené une guerre dans les colonies pendant 13 ans pour maintenir l'Angola, la Guinée, Bissau, le Mozambique. Mais c'est pas vraiment ce qui distingue un régime fasciste d'un régime non-fasciste, que la France, par exemple, dans les années 50, qui est une démocratie, mène une guerre en Algérie pour maintenir l'Algérie. Donc, c'est un débat extrêmement fort et c'est difficile de le trancher en deux mots parce qu'il y a des arguments intéressants des deux côtés.
Mais vous dites que Salazar ne voulait pas changer le Portugal, mais connaissait-il vraiment le Portugal ? Je vous cite, vous écrivez, au haut de la page 28, Salazar reste cloîtré dans son cabinet de travail, se tenant à distance d'un pays en pleine transformation qu'il ne connaît que par rapports et notes interposés. On a l'impression qu'il fantasme le Portugal.
C'est surtout valable, voilà, cette phrase, pour les années 50 et 60, quand il est vieillissant déjà, et que Salazar avait un aspect extrêmement misanthrope. Il était extrêmement peu confiant dans les qualités des hommes et des Portugais notamment. Il se considérait un peu comme le père des Portugais, dans le sens où les Portugais étaient des enfants et qu'il fallait un père avec une poigne de fer pour les mener vers leur bien, malgré eux et en dépit d'eux. Et donc Salazar était surtout un homme de cabinet. Il était à São Bento à partir de la fin des années 30 et il y restait toutes ses journées. C'était quelqu'un qui n'aimait pas vraiment voyager. Il a été très très peu à l'étranger. Il était quasiment pas à l'étranger. Il a été trois fois en Espagne. Il n'est jamais allé dans les colonies. Il n'a pris l'avion qu'une seule fois. Et quand il est sorti de l'avion, il a dit « je n'aime pas ». Et au fur et à mesure, sa vie avait quelques pôles, São Bento, l'effort de São Estoril, où il passait une partie de l'été pour fuir la chaleur de Lisbonne. Et dès qu'il le pouvait, notamment en septembre, il allait à Santa Combadão, donc son village d'origine, où il allait s'occuper des vignes et de sa petite exploitation rurale. Mais surtout quand le Portugal connaît un phénomène d'urbanisation, d'exode rural des 50-60, c'est un pays qu'il connaît mal. Est-ce qu'il connaissait vraiment Lourdes, Almada? C'est pas ce qui l'intéressait du tout. En fait, ce qu'il voulait, c'était dès qu'il pouvait aller rentrer dans son village où les choses avaient peu changé.
Finalement, Salazar n'aura jamais vu la mort de son monde, puisqu'il est mort avant, il meurt en 70 et la révolution a lieu 4 ans plus tard.
Tout à fait, il n'a pas vu la fin de son régime, et même Miguel Torga, au moment de sa mort, dans son journal, dit qu'il n'a même pas vu sa mort, il a même pas, on ne peut même pas bénéficier de son départ, parce qu'en fait, pendant 2 ans, Salazar, donc on pense qu'il va mourir en septembre 68, il ne décède pas. Il revient un moment à San Bento et semble se jouer une comédie autour de lui. Les gens n'osent pas lui dire qu'il n'est plus président du Conseil. Et des ministres font semblant d'aller le voir pour lui demander des orientations, etc. On joue une énorme comédie. Et donc, s'était-il rendu compte qu'il n'était plus au pouvoir et que Moussa Keïta l'avait remplacé? Ça, c'est difficile de le savoir. Mais il ne connaîtra pas la chute du régime 4 ans après son décès.
Victor Pereira, peut-on dire de Salazar qu'il était un fin stratège? Il n'a pas laissé dauphin pour éviter de fomenter des espoirs qui pourraient se retourner contre lui. Il aimait créer des conflits, des factions, diviser pour mieux régner finalement.
Tout à fait, de ce point de vue-là, on ne reste pas 40 ans au pouvoir si on n'a pas un certain talent politique, mais même politicien, j'allais dire. Bon, d'un autre côté, il est resté 40 ans au pouvoir parce qu'il n'y avait pas d'élection libre, parce que l'opposition ne pouvait pas s'exprimer et que l'opposition était traquée. Mais néanmoins, Salazar réussit à partir de 1928, alors qu'il n'a pas vraiment le soutien d'un grand parti. Il a le soutien de l'Église catholique, mais à passer de ministre des Finances à Premier ministre et ensuite à rester au pouvoir et à réussir à, d'une part, être au centre du pouvoir en favorisant les tensions entre différentes factions et en restant au centre. Mais aussi, il a dû faire face à des tentatives de coup d'État, et parfois des tentatives de coup d'État qui venaient de très proches de lui. Mmh. Et c'est le cas notamment en avril 61, quand une partie des ministres militaires, dont le ministre de la Défense nationale, soutenu quelque peu par les États-Unis, tente un coup d'État, et il réussit, en une seule journée, à se débarrasser de ses ministres militaires et à rester au pouvoir. Donc, il est sans aucun doute quelqu'un de talentueux politiquement, dans ce sens d'être obsédé par une volonté de rester au pouvoir.
Oui, puis il a beaucoup été aidé par la presse, vous l'écrivez, aidé par une partie de la presse que possède le patronat. Salazar réussit rapidement à imposer l'image d'un magicien des finances qui équilibre les comptes de la nation. Cette réputation, c'est la presse qui la lui offre.
Tout à fait, c'est lui-même qui joue, qui réussit à rétablir les comptes publics un an après son arrivée à la tête du ministère des Finances, et qui est vu par une partie du grand patronat et par les forces conservatrices comme celui qui va enfin restaurer de l'ordre, parce que depuis 1910, il y a perpétuellement des changements de gouvernement, il y a une plus grande liberté pour les mouvements syndicaux, et donc il y a les travailleurs qui contestent, et ce qu'espère une partie du patronat, de l'Église catholique et des mouvements conservateurs, notamment ruraux, c'est qu'on restaure l'ordre et que les travailleurs ne puissent plus contester autant qu'ils le faisaient auparavant. Et de ce point de vue-là, Salazar va imposer un régime d'ordre où les travailleurs ne pourront pas contester, si ce n'est au risque de l'emprisonnement, les conditions de travail auxquelles ils sont soumis.
Pour plus d'informations sur Salazar, je renvoie les auditeurs donc et les auditrices à votre livre « C'est le peuple qui commande », mais aussi à une biographie bientôt apparaître aux éditions Perrin de Yves Léonard sur Salazar. Victor Pereira, le Portugal n'était-il pas, avant avril 1974, avant la révolution des œillets, à contre-courant du reste de l'Europe? Dans les années qui précèdent la révolution d'avril, il y a eu mai 68 en France et ses conséquences et influences dans le reste de l'Europe. Il y a eu les périodes des indépendances, c'est en 1960 que beaucoup de pays africains deviennent souverains. Comment expliquer ce retard du Portugal dans la révolte?
D'une part, le Portugal était une singularité en Europe occidentale parce que c'était une dictature. Donc il y avait deux dictatures évidemment, il y avait l'Espagne juste à côté, il y avait la Grèce à partir de 67, mais dans une Europe qui... En Europe occidentale, après la défaite du fascisme italien et du nazisme allemand, était devenu un continent en partie constitué de démocratie. C'est une singularité. D'autre part, cette singularité, c'est sur le sous-développement. Le Portugal est l'un des pays où le pays le plus pauvre, avec la Grèce et la Turquie, si on voit un peu plus large. Et c'est un pays où la population est encore en grande partie dans l'agriculture, une agriculture relativement pauvre, peu mécanisée, où la population vit très difficilement et où l'industrie est encore très peu développée. Et d'autre part, il y a ce que vous dites, c'est le dernier pays en Europe occidentale qui résiste à la décolonisation, qui mène des guerres à partir de 61 en Angola, en 63 en Guinée-Bissau, en 64 au Mozambique, et qui veut maintenir ses colonies. c'est une singularité, et à la fois, c'est la France a fait la même chose, en Algérie notamment, jusqu'en 62. Mais à partir de 62, si on retire le cas particulier de l'Espagne, qui a une colonie, la Guinée équatoriale, le Portugal résiste. Et résiste, surtout ce qui marque à l'époque, c'est que résiste sans perspective de fin, et ce qui va d'ailleurs provoquer la chute du régime, c'est que pour Salazar, il n'est en aucun cas question de décoloniser dans les 10, 15, 20 ans. Lui, il dit, si on décolonise un jour, c'est quand l'Angola, le Mozambique et la Guinée-Bissau deviendront des nouveaux Brésil et pourront prendre, entre guillemets, naturellement leur indépendance. Et donc, c'est un refus de voir que la présence européenne en Afrique est terminée et qu'il, alors, ce que conseillent les Français, ce que conseillent les Américains, c'est qu'il faut trouver un nouveau type de relation, un type de relation néocoloniale. La France a créé ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est pas non plus un départ, une perte d'intérêt immédiat et brutaux. La France a su maintenir des intérêts importants. Ce qui rend le Portugal archaïque, c'est que le Portugal dit « il n'est pas question de décoloniser et on va rester en Afrique encore pendant plusieurs siècles ».
Et est-ce que le retard dans cette révolte n'était pas non plus orchestré ? Je veux dire par là, la dictature salazariste n'était-elle pas une dictature nécessaire ? Je pense à la position du président américain Dwight Eisenhower qui en 59 a déclaré, je cite, « Les dictatures de ce genre, en parlant de l'Espagne franquiste et du Portugal salazariste, sont nécessaires dans les pays dont les institutions politiques ne sont pas aussi avancées que les nôtres. »
Ce propos de Eisenhower, le président américain, il prend sens surtout dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que pour les États-Unis, il est plus important d'avoir des alliés, et le Portugal est à partir de 1949 membre de l'OTAN, membre fondateur de l'OTAN, il est plus intéressant d'avoir des pays stables, non communistes, plutôt que des régimes, des démocraties où éventuellement il y a des troubles sociaux, ou voire les communistes prennent le pouvoir. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont une vision, il faut bien le dire, parfois arrogante, parfois hautaine vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal. Ils considèrent que ce sont deux pays, et notamment dû aux structures sociales, avec ce poids de l'agriculture extrêmement important, cette faible industrialisation ou cette industrialisation encore réduite, que ce sont des pays où la démocratie ne peut pas s'installer. Il manque notamment des classes moyennes urbaines, et que donc, s'il n'y a pas des dictatures, il va y avoir des régimes communistes. Et évidemment, dans ce cadre-là, n'a pas aidé la guerre civile espagnole, avec cette idée qui a été imposée par Franco, que Franco et les militaires avaient fait un coup d'État pour empêcher l'Espagne de devenir un régime communiste. Et donc, dans les années 50-60, plusieurs pays, dont les États-Unis, se disent « il vaut mieux que l'Espagne et le Portugal restent des dictatures ». Et pour les États-Unis, ce qui est très important, c'est les Açores. Les Açores, ces îles portugaises en plein milieu de l'Atlantique, sont, dans le cadre de la guerre froide, déjà dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale et dans le cadre de la guerre froide, essentielles pour la stratégie américaine de lutte contre une éventuelle avancée de l'Union soviétique. Et donc, il se plaise tout à fait avec Salazar, qui en plus, à la différence de Franco, c'est un universitaire. Il n'est pas arrivé à la tête du pouvoir après une guerre civile sanglante avec des centaines de milliers de morts comme Franco, qui fait croire avec une propagande menée par notamment Antonio Ferro et après le SNI, que c'est une dictature bénévolente, avec pas d'exécution de masse, on tait évidemment la répression qui est menée, les prisons politiques. Et donc, pour la plupart des démocraties occidentales, un Salazar est un moindre mal. Voire, ils considèrent que c'est un dictateur qui est adapté au retard de la population. Évidemment, ce qu'on voit, c'est que après le 25 mai 1974, les Portugais ont embrassé, se sont appropriés la démocratie et qu'il n'y avait pas d'antithèse entre le peuple portugais et les valeurs démocratiques. Et le Portugal vit depuis 50 ans dans un régime démocratique où les contestations antidémocratiques sont relativement réduites.
Victor Pereira, nous allons rentrer dans le côté plus folklorique de la Révolution des œillets, de ce mouvement des capitaines, puisque c'est bien connu. Tout cela a commencé au son d'une chanson qui a donné le titre de votre livre et qui s'appelle Grândola Vila Morena, une chanson de Zeca Afonso. Après la diffusion de ce titre, à minuit 29, sur la radio catholique Radio Renascença, en grosso modo 18h, c'était la fin de la dictature au Portugal. Pourquoi un déclenchement par la chanson et pourquoi celle-ci ?
Alors en fait, il y avait deux chansons. Celui qui a organisé, ce en à peine un mois, le coup d'État, c'est Hotel Salazar Carvalho, que tout le monde au Portugal connaît surtout comme Hotel, et qui va préparer un plan impliquant les différentes unités militaires où il a pu rallier des personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle déjà le MFA, le mouvement des forces armées qui s'est constitué dans les semaines précédentes. Et il organise donc des mouvements, telle unité doit prendre telle position, telle autre unité doit prendre telle autre position. Et il faut donner une sorte de code. Et il choisit une chanson qui s'appelle « Depois je dois Deus », qui avait gagné le prix de la chanson portugais, la RTP, qui était ensuite le candidat assez malheureux à l'Eurovision. Mais en fait, un des problèmes dont il se rend compte quelques heures, quelques jours avant le 25 avril, c'est que la radio sur laquelle va passer cette chanson, c'est une radio de Lisbonne qui n'est pas entendue à plus de 100 km de Lisbonne. Mmh. Et donc, il faut trouver une autre chanson rapidement et une radio nationale. Et ce choix va porter sur Grande Olivia Morena de Zac Afon. Zac Afon, c'est un chanteur connu de l'opposition, dont beaucoup de chansons avec des critiques contre la dictature sont interdites et censurées. Ils ne peuvent pas passer à la radio. Néanmoins, Grande Olivia Morena, ça peut paraître étonnant a posteriori, n'est pas interdite à la radio et peut donc passer. Et Othello choisit cette chanson parce que d'une part, c'est une chanson qui est liée, qui a été appropriée par l'opposition, qui est une chanson qui dit à un moment donné « Et au pauvre que majoritaire, c'est le peuple qui commande ». Et donc qui est connotée avec cette idée que le coup d'État doit permettre ensuite au peuple de prendre en main sa destinée, chose que la dictature ne permettait pas. Et donc c'est pour ça qu'elle est choisie et qu'elle passe sur Radio Renascença, où Othello connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui peut la passer sans trop éveiller de soupçons. Et Radio Renascença, ça c'est une radio nationale qui appartient à l'Église catholique d'ailleurs et qui donc va pouvoir être écoutée partout dans le pays. Et donc à partir de là, les militaires qui écoutent la radio savent qu'ils doivent écouter Radio Renascença, savent qu'ils doivent quitter, prendre le pouvoir dans les casernes et quitter leurs casernes et aller prendre les objectifs qui leur ont été assignés.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena.
Victor Pereira, on continue notre discussion. Pour le moment, nous allons marquer une pause d'une dizaine de minutes et on revient dans un instant. Je suis toujours avec Victor Pereira, chercheur à l'Institut d'Histoire Contemporaine de Lisbonne et maître de conférences à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, titulaire depuis 2007 d'un doctorat en histoire à Sciences Po Paris. Victor Pereira, les militaires et les capitaines, Othello en tête, pensaient-ils qu'ils y arriveraient? Et imaginaient-ils aussi qu'il y aurait une marée populaire derrière eux en ce 25 avril 1974?
Othello, et c'est la plupart des témoignages le disent, était très confiant, il y croyait. Et de toute façon, vous vous lancez pas dans une telle aventure si vous y croyez pas un minimum, parce que un échec aurait pu vouloir signifier la prison, quitter l'armée, perdre son emploi, etc. Donc, Othello, ce que tout le monde dit, c'est qu'il avait un enthousiasme, et un enthousiasme qui était communicatif. Et notamment, il avait jamais dit qu'il avait un plan B. Il avait dit non, j'y crois, un plan A. Et beaucoup de gens avaient des raisons de douter, parce que le 25 avril 1974, c'est pas la première tentative de coup d'État militaire, en fait. Depuis les années, fin des années 20, il y a eu différentes tentatives de coup d'État militaire, certaines qui sortent à la rue et qui sont réprimées, d'autres qui sont étouffées dans l'œuf. Mais il y avait déjà eu une tentative le 16 mars 1974, il y avait une tentative fin 1961, donc il y a eu un certain nombre de tentatives. Deuxième point, et là, personne n'y croyait, par contre, les militaires pensaient que la population n'allait jouer aucun rôle. Et c'est ce qui fait vraiment le 25 avril, qui passe en quelques heures d'un coup d'État à une révolution. Mmh. Quand le peuple, c'est dans la rue, quand le peuple participe. Pourquoi ils pensaient qu'il allait rien se passer du point de vue des mobilisations populaires? Salazar tombe de sa chaise, Salazar quitte le pouvoir. Il y a une sorte de vacance du pouvoir pendant quelques jours. Il se passe rien. Le 16 mars 1974, il y a une tentative de coup d'État. Les soldats de Kardashian sortent, vont vers Lisbonne. La population ne bouge pas. Et donc, ils avaient intériorisé l'idée que le peuple portugais était apathique politiquement et que peut-être n'appuierait pas la dictature, mais qu'il ne ferait rien, que les gens resteraient. Donc c'est une grande surprise quand, notamment Maia, et dans Salgueiro Maia, un de ceux qui joue un rôle important dans le coup d'État le 25 avril, il est étonné que la population prenne fait et cause pour les militaires, et il raconte bien quand ils arrivent vers midi au Largo do Carmo, que la population vient donner à manger aux militaires qui sont sortis au milieu de la nuit, leur dit où est-ce qu'ils peuvent se placer, ouvre leur appartement pour qu'ils aient un meilleur point de vue pour tirer ou surveiller le calme. Il y a tout de suite un appui, et ce qui est aussi étonnant, c'est que personne ne vient soutenir la dictature. Vous n'avez personne qui vient aider Kaïtan, qui vient aider les quelques forces encore fidèles à la dictature et notamment à la police politique. C'est ceux qui sont dans la rue sont tous en soutien des insurgés et espèrent tous que ce coup d'État va mettre fin à la dictature et ouvrir le champ vers une démocratie à venir.
Et est-ce que vous savez si encore aujourd'hui il y a des gens vivants qui étaient au Largo do Carmo ce jour-là? Des gens qui ont patienté pendant 6 heures en regardant l'histoire se faire?
Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens, hein. C'était beaucoup de jeunes, et de moins jeunes, mais beaucoup de jeunes. Donc, imaginez, vous avez 20 ans le 25 avril, vous en avez 70 maintenant, donc il y en a beaucoup qui sont encore vivants. Et certains des militaires d'avril sont encore vivants, de moins en moins, hélas. Mais donc, bien sûr, il y a des gens qui ont vécu, et tous les Portugais qui avaient, disons, plus de 3 ans, le 25 avril 1974, se rappellent tous où est-ce qu'ils étaient le 25 avril. Mmh. Où est-ce qu'ils étaient, soit à Lisbonne, soit dans leur village, mais aussi à l'étranger. Vous demandez à des gens de plus de 55 ans, on va dire, qui étaient en France, ils savent quand est-ce qu'ils l'ont entendu, soit à la radio, soit à la télévision, soit à l'usine ou sur un chantier. Un collègue leur dit « Ah, mais il se passe un truc dans ton pays ». Donc oui, tout le monde, y a des gens qui l'ont vécu et tout le monde s'en souvient.
Parlons maintenant des œillets, c'est ce qui donne le nom à cette révolution d'avril 74. À quel moment apparaissent les œillets et comment apparaissent-ils?
Ils apparaissent dès le 25 avril, dès la journée. Et il y a notamment une figure qui a émergé d'une serveuse dans un restaurant à Lisbonne, dans le centre de Lisbonne. Son restaurant fêtait son premier anniversaire. Le patron avait décidé d'offrir des œillets à ses clients de la journée. Mmh. Sauf que à midi, les militaires ont fait fermer tous les commerces et tous les restaurants. Il ne sait pas quoi faire de ses œillets. Il les donne à Céleste, elle s'appelle, Céleste Kyle. Et elle rentre avec chez elle avec ses œillets. Elle habite près du Calme. Et elle les aurait donnés à un des militaires qui lui demandait une cigarette. Mais ça, c'est l'histoire qui est restée pour la postérité. Mais fort probablement, si vous connaissez la Baixa, donc le quartier de Lisbonne, c'est un quartier commerçant. Où il y avait à l'époque beaucoup de commerçants dans la rue et fort probablement des vendeuses de fleurs ont vu des militaires, leur ont donné des œillets.
La fleur de saison.
Exactement, la fleur de saison, et ça s'est diffusé, etc. Donc il y a plusieurs idées, celle-ci, cette histoire qui est assez jolie, est restée. Mais ce qui est important avec ces œillets, c'est que, et ça revient à la discussion que nous avons eue tout à l'heure, donner le nom d'une fleur à une révolution, ça a servi à mettre en avant son aspect pacifique.
Oui, elle participe de cette romantisation.
Exactement, elle participe de cette romantisation. Ces œillets qui ont été mis dans les canons des fusils, montrant que les militaires ne voulaient pas tirer. Encore une fois, c'est tant mieux que cette révolution ait été pacifique, vraiment. Mais les militaires, quand ils sortent des casernes au milieu de la nuit, ils pensent qu'ils vont trouver une résistance plus forte et ils pensent qu'ils ne vont pas mettre des œillets dans leurs fusils, mais que probablement, ils vont devoir les utiliser. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros moment d'attente sur cette place, en attendant la reddition de Marcel Kaïtan qui tarde, parce qu'il ne veut pas donner la reddition à un simple capitaine. Il faut donc trouver un général qui se trouvera être Spinola. Et donc, ce temps d'attente, il y a ces scènes de confraternisation, et notamment donc, ces dons de fleurs que les militaires, les officiers et les soldats vont arborer.
Et c'est Spinola que vous évoquiez qui vient confisquer cette révolution au capitaine.
Alors confisquer, c'est peut-être un mot dur, mais c'est ce que beaucoup d'officiers, en fait, le MFA, donc le mouvement des forces armées, le mouvement des capitaines à l'origine, avait déjà pensé cette idée une fois que le mouvement des capitaines se lance vers cette idée d'un coup d'État, ce qui n'était pas l'origine du mouvement des capitaines, qui avait des dimensions corporatistes à l'origine, les intérêts de ses capitaines, de ses majors, de ses commandants. Quand ça devient politique et quand l'idée est il faut mettre fin aux guerres coloniales et pour mettre fin aux guerres coloniales, il faut mettre fin à la dictature, une des questions qui se pose, c'est qui pour commander le pays après, qui deviendra notre chef. Et le chef qui est choisi, qui est élu par ceux qui font partie du MFA, c'est Costa Gomes. Costa Gomes, c'est le chef d'état-major des forces armées, qui est une personnalité appréciée des officiers intermédiaires parce qu'il les écoute, parce que il a participé à la tentative de coup d'état de 61, donc il est vu comme quelqu'un qui n'est pas complètement inféodé à la dictature, même si c'est un militaire très efficace et donc il est à la tête de l'état-major. Et Spinola n'arrive qu'en deuxième. Mais ce qui va se passer le 25 avril, c'est que d'une part, Costa Gomes se cache et passe sa journée à l'hôpital, donc il est injoignable, et que d'autre part, Spinola a publié un livre, Portugal et le futur, en février 74, qui lui a donné une notoriété considérable, et Caetano pense que, quand il pense à un général qui puisse prendre le pouvoir, il pense à lui. Et Spinola a un peu conspiré depuis plusieurs semaines pour que les choses tendent vers lui. Et Spinola, donc le 25 avril 1974, alors que ce n'est pas lui que le MFA a choisi, va apparaître comme la solution de recours tant pour le MFA que pour Caetano. Et donc, il va s'imposer le soir même comme celui qui obtient la reddition et celui qui va être à la tête de la junte de salut national qui va être présentée au pays dans la nuit du 25 au 26 avril. Et là où vous dites confisqué, effectivement, il va y avoir très très vite des dissensions parce que d'une part, les officiers du MFA avaient prévu la rédaction d'un programme que Spinola avait lu et avait amendé. Et le soir du 25 avril, il a dit non, mais il n'est pas de question de programme. Et les officiers du MFA, si, il est question du programme. Et si vous ne l'acceptez pas, nous avons encore les chars dans la rue et la révolution n'est pas terminée. Donc, ils vont devoir négocier pendant toute la nuit des modifications à ce programme. Et d'autre part, dès cette journée-là et dès cette nuit-là, il va y avoir des tensions. Et notamment, les tensions, ça va être sur la question des prisonniers politiques. Les officiers du MFA voulaient la libération de tous les prisonniers politiques. Spinola considère que certains prisonniers politiques ne doivent pas être libérés, notamment ceux, alors ils étaient très peu, hein, qui avaient commis des crimes. Et notamment, c'est le cas de Elmin de Parmination, qui était très connu parce qu'il avait organisé et réussi un hold-up dans une banque du Portugal en 67. Et donc, dès cette nuit-là, il y a une tension sur cette question, sur qui on libère et qui on libère pas. Et finalement, c'est le MFA qui va le remporter. Et tous les prisonniers politiques vont être libérés. Mais une des tensions, notamment, c'est sur la décolonisation. Le MFA défend l'autodétermination. Spinola, lui, a une idée d'une communauté, une communauté lusiade qu'il veut créer. Et donc, dès le soir du 25 avril, ces tensions vont apparaître. Elles existaient déjà. Et elles vont continuer jusque, bon là j'avance un peu dans l'histoire, mais jusqu'à la démission de Spinola le 30 septembre 1974.
Et nous allons pour le moment marquer une courte pause, on revient dans un instant. Radio Alpha. Victor Pereira, dans très précisément 3 mois, puisque nous sommes aujourd'hui le 25 janvier, il y aura les commémorations des 50 ans de la Révolution des œillets au Portugal. Et ces commémorations, en cette année si spéciale, auront lieu 1 mois et demi après les élections législatives anticipées du 10 mars. Des élections qui seront scrutées de près, puisque le parti Chega, le parti d'extrême droite, risque de percer. 2 questions donc. Quel récit les élites dirigeantes portugaises vont-elles porter pendant les commémorations? Et une remarque, plutôt qu'une question, mais quelle ironie! Alors que l'extrême droite a été presque inexistante au Portugal pendant 45 ans, quelle ironie de voir Chega s'en sortir!
Effectivement, mais je vais commencer par la première question. Le discours, et notamment depuis maintenant 2 ans, il y a une commission des commémorations du 25 avril, des 50 ans du 25 avril, qui est dirigée par une historienne, Maria Nasser Zor, la grande spécialiste de la révolution des œillets, et qui mène une action, des conférences, des débats, différentes initiatives partout dans le pays et un peu à l'étranger, où montre bien à quel point donc la révolution a permis l'émancipation du peuple portugais, la démocratie telle qu'on la connaît, mais aussi tout le bouillonnement social dont le Portugal est issu, notamment avec les différentes avancées sociales ou dans le domaine de la culture, de l'éducation, etc. Et aussi l'aspect de l'indépendance. C'est-à-dire que le Portugal, après 1974, accorde l'indépendance des différentes colonies et donc l'émancipation de ces peuples africains après une autre histoire et que il y a eu souvent des conflits, des guerres, notamment en Angola, extrêmement sanglantes, mais c'est la fin du colonialisme. Donc c'est un peu ça le discours. C'est à la fois c'est la démocratie qui est possible, mais et évidemment ça va se joindre à votre deuxième remarque, c'est que la démocratie c'est comme le vélo, il faut toujours avancer pour pas que ça tombe. Et que donc cette rappeler le 25 avril, c'est pas tomber dans un discours nostalgique, passéiste, c'est rappeler des valeurs pour continuer. Et justement la démocratie, c'est le régime de l'imperfection. C'est un régime où on est mécontent et on a le droit d'être mécontent. C'est la grande différence avec la dictature, on n'a pas le droit d'être mécontent. Et au Portugal, le 25 avril est souvent rappelé. C'est pour ça qu'on a fait le 25 avril. Ou les valeurs du 25 avril. Notamment pendant qu'il y a eu la crise économique et financière à la fin des années 2000 et au cours des années 2010, beaucoup de manifestants chantaient Grandula Vila Morena, les Granduladas.
Ça donnait un verbe, grandular, en
exactement.
Portugais.
Et rappeler les valeurs, alors après les valeurs sont multiples, on peut les interpréter de différentes manières, du 25 avril. Et là, pour reprendre votre deuxième remarque, effectivement, c'est ironique. C'est-à-dire que pendant longtemps, le Portugal apparaissait comme une exception en Europe occidentale. C'était le seul pays où l'extrême droite était quasiment inexistante. Il y avait une extrême droite, mais qui était groupusculaire. Les partis d'extrême droite faisaient des scores de moins de 1%. Comparé avec les autres partis d'extrême droite en Europe, c'était ridicule. Il y avait certes des idées qui pouvaient être d'extrême droite, mais les gens ne les exprimaient pas en votant pour un parti. Ce qui a changé radicalement depuis 2019 et l'apparition de ce mouvement, Chega, avec André Ventura qui venait à l'origine du PSD, donc le parti de centre-droit, c'est qu'il y a eu un député d'extrême droite à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas eu depuis 1974, et qui, ce mouvement, suite aux élections qui ont suivi, n'a pas cessé de croître. Et effectivement, les différents sondages, les sondages valent ce qu'ils valent. Il faut souvent les prendre comme des pincettes, mais il est fort probable que ce parti d'extrême droite, qui notamment s'est fait connaître autour d'un discours xénophobe, notamment contre les minorités roms, qui a tout un discours anti-corruption, et notamment, alors peut-être pas directement Ventura, qui est prudent, mais certains autour vont prendre dans la figure de Salazar cette image du gouvernement qui est pas corrompu, qui est pas corruptible, mais faisant une histoire complètement biaisée de la dictature, parce qu'on sait que sous la dictature, certes, Salazar n'était pas corrompu, mais il y avait de la corruption, et que c'était un des moyens pour Salazar de se maintenir au pouvoir. C'était laisser des affaires se passer, ou placer des gens dans des postes, avoir des cunhas, des soutiens. Donc, effectivement, l'ironie, c'est que quelques semaines avant les commémorations du 25 avril, il n'est pas impossible, pour l'instant, on ne le sait pas encore, que aucune majorité claire n'apparaisse sans l'éventuel soutien de Chega. Et donc après, la grande question, c'est notamment, bon, évidemment, pour le PSD et l'alliance qu'il fait avec le Parti Populaire, est de savoir est-ce qu'ils accepteraient le soutien avec participation au gouvernement ou pas de Chega. C'est un peu la grande question. Et donc, il n'est pas impossible qu'on arrive au 25 avril sans gouvernement déterminé et que donc l'extrême droite soit au cœur des tractations politiques alors qu'on commémore la chute de la dictature et la fin de l'extrême droite et des valeurs démocratiques dont Chega n'est pas vraiment le représentant.
Ce sera ma dernière question, Victor Perrin. Le Portugal est-il toujours un îlot de gauche aujourd'hui ? Après le 25 avril 1974, le Portugal était devenu un laboratoire sur lequel se penchait une partie de la gauche mondiale. On supposait que le Portugal puisse devenir le Cubain européen, je dirais. En France, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing n'était pas du tout rassuré.
Non, il n'était pas rassuré parce que pendant la Révolution, on a milité pour que le Portugal ne soit plus une dictature d'extrême droite. Mais certains, ensuite, ne voulaient regarder plutôt vers l'Europe de l'Est, vers Cuba, vers l'Algérie. Et donc, il y a eu, comme vous dites, le Portugal est un laboratoire. Et ce qui est vrai, c'est que, de nouveau, dans les années à partir de 2015, quand António Costa est arrivé à la tête du gouvernement avec le soutien parlementaire du Parti communiste portugais du Bloc de gauche.
La fameuse geringonça.
Exactement, la branque-ballante, pour la traduction française. Ça a été vu par certains mouvements de gauche en Europe et notamment en France. Benoît Hamon avait été plusieurs fois au Portugal, avait été vu comme une solution. C'est-à-dire que dans une Europe où la gauche perd du poids et où les partis socialistes ou sociodémocrates traditionnels perdent de l'audience et sont contestés, notamment Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, le Portugal est une sorte d'anomalie parce que le parti socialiste réussi à être au pouvoir et à rester dans une position dominante. Et effectivement, depuis la démission d'Antoine Costa, une des grandes questions, c'est est-ce que le Parti Socialiste va pouvoir rester au pouvoir? Est-ce qu'il va avoir une contestation qui est des alternatives à sa gauche? Ou, effectivement, à droite et à l'extrême droite, est-ce que le Portugal va rester une exception dans différentes dimensions ou pas?
Merci beaucoup Victor Pereira pour cet entretien et pour ce livre. Je répète son titre, c'est Le peuple qui commande, la révolution des œillets 1974-1976. C'est aux éditions du Détour, c'est signé Victor Pereira. Et d'ailleurs, je précise simplement ici, le consulat général du Portugal à Paris a le plaisir ce soir de vous convier pour une séance de présentation de ce même livre, ce soir à 18h30.
Venez nombreux, comme on a tendance à le dire.
Merci beaucoup Victor Pereira.
Merci beaucoup à vous.